Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien, pleine forme. Vous êtes nombreux aujourd'hui. S'il y a du monde qui arrive, il y a le planétarium qui va être ouvert et ils vont pouvoir assister à la même conférence en vidéo. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Pôle Info Santé. Ça fait déjà 25 ans, c'est ce qu'on se disait. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la première? Non. Non, vous êtes. Ah? Hein? Hein? Vous étiez là? C'était vous? Vous étiez comme ça, non? 25 ans donc de Pôle Info Santé, qui est, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important, le fruit d'un partenariat entre le CHU de Poitiers, dont l'une des missions est l'éducation à la santé, puis l'espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, bien, c'est de vous permettre, à vous, grand public ou public expert, de discuter, de dialoguer avec des professionnels de la santé qui sont là avec nous. Nos intervenants, je vais les présenter dans quelques instants, ils vont vous proposer chacun un exposé de ce qu'ils font. Ça durera une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum chacun. Et puis ensuite, comme à chaque fois, je viendrai vers vous et je vous donnerai la parole pour poser des questions. On va donc en savoir plus aujourd'hui sur les médecines alternatives complémentaires. C'est la thématique de cette soirée. À la fin des exposés, donc vous posez vos questions. Alors, plusieurs possibilités. La première, c'est de me faire un petit signe avec la main. Je viendrai vous voir et je vous tendrai le micro. La deuxième, si vous êtes très timide, c'est d'écrire sur une feuille qui doit être à l'intérieur des petits dossiers que vous avez, d'écrire votre question. Je vous demanderai d'écrire le plus lisiblement possible et le plus gros possible parce que je vieillis. Et comme ça, je pourrai lire vos questions et vous me les donner discrètement. Voilà, Vanessa, notre hôtesse, vous montre le petit papier. Vous avez également entre vos mains un document. Des documents qui résument un peu tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Il y a aussi une fiche d'évaluation. Vous n'oubliez pas de la remplir à la fin et de la remettre soit à Christine, soit à Vanessa à la sortie, ce qui nous permettra d'améliorer le produit, de changer le pôle Info Santé. On l'a fait évoluer depuis ces 25 années. Changement d'horaire, entre autres, etc. Et puis nouvelle formule. Donc elle est très, très importante. N'hésitez pas à la remplir. Cette conférence va être enregistrée et vous allez pouvoir ensuite la réécouter sur le site internet du CHU ou de l'espace Mendès France. C'est pour cela que nos intervenants auront un micro et c'est pour ça que quand vous poserez vos questions, je vous tendrai le micro. Ce n'est pas pour vous embêter, pour vous nous chanter une chanson. Après, si vous voulez chanter, vous pouvez. Mais c'est surtout comme ça, on pourra enregistrer et vous pourrez réécouter l'intégralité de cette conférence chez vous tranquillement. Bienvenue donc à la 118e édition conférence Pôle Info Santé ici. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Catherine Boisseau, bonsoir. Cadre santé certifié en phytoaromathérapie au CHU de Poitiers. Laurence Guette-Dessus, bonsoir. Vous êtes infirmière et hypnopraticienne au CHU de Poitiers. Annette Goujon, infirmière et sophrologue, bonsoir, au CHU de Poitiers également. Et Jean Boucher, homéopathe, acupuncteur, praticien en micronutrition, bonsoir, au CHU et à Buxerolles, je crois, c'est ça?
Oui,
voilà. Tout à fait. Je vous retrouve d'ici une toute petite heure. Je vous laisse le micro, docteur, pour commencer cette conférence.
Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'être là déjà, parce que ce matin, les conditions météo n'étaient peut-être pas les meilleures pour se déplacer. Merci d'être venu. Très brièvement, je me présente, je suis médecin, homéopathe, acupuncteur, et donc je fais de la micronutrition. Mon parcours, par contre, avant de faire ça, a été un peu varié. J'ai commencé par être urgentiste et j'ai été urgentiste pendant plusieurs années au SAMU de Poitiers. Je vous le précise quand même parce que, comme vous le voyez, je me suis totalement dirigé vers d'autres voies en médecine, l'homéo, l'acupuncture et la micronutrition. Alors, je vais vous parler donc des médecines alternatives, ces trois-là, et mes collègues, d'autres moyens de traiter. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle alternatives et complémentaires? Parce que la médecine actuelle occidentale, elle a toujours à peu près la même stratégie. Un diagnostic, on s'aide d'examens complémentaires et on fait un traitement par médicament ou chirurgie. Le problème, c'est que les traitements ont des effets secondaires et que la prise en compte du patient est souvent non globale, c'est-à-dire que soit on traite le physique, soit on traite le psychisme, mais très rarement les deux. Donc il a fallu essayer de trouver d'autres moyens de se soigner dans cette recherche de limitation des effets secondaires et de bien-être global, c'est-à-dire d'équilibre physique et psychique. Il y a deux courants culturels actuels dans ces médecines alternatives. Nous nous tournons vers la médecine de nos ancêtres, en particulier les plantes, également les manipulations. c'est depuis des siècles que les rebouteux existent dans et pratiquent dans nos campagnes. Voilà, c'est une ostéopathie qui est ancienne, mais qui se continue évidemment. Et puis nous nous tournons également vers la médecine d'autres pays, en particulier l'Asie avec la médecine traditionnelle chinoise, l'Inde avec la médecine ayurvédique, etc. L'Amérique du Sud, l'Afrique. Donc alternative, et pourquoi complémentaire ? Parce qu'elle complète de façon admirable la médecine allopathique. Il n'est pas question d'abandonner la médecine allopathique pour une autre médecine, mais elle la complète dans cette recherche de médecine globale avec le moins d'effets secondaires, certains médicaments restant indispensables dans certaines maladies. Alors, je vais commencer par l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une méthode de traitement par l'utilisation d'aiguilles ou d'autres moyens, en particulier le laser, les moxa, ce qu'on appelle la moxibustion, pour stimuler certains points qui ont été répertoriés au cours des siècles. Ce sont des points qu'on essaye de faire les plus précis possibles quand on pose une aiguille. Il y a deux courants actuels, l'acupuncture traditionnelle et l'acupuncture scientifique. La traditionnelle, elle fait partie intégrante de ce qu'on appelle la MTC, ou médecine traditionnelle chinoise. Les premiers écrits datent de 4800 ans, donc au 28e siècle avant Jésus-Christ. C'est le Huangdi Yiting, c'est-à-dire le livre des transformations, sous je ne sais plus quelle dynastie, mais en tout cas c'était l'empereur jaune. Ça s'appelle le canon de l'empereur jaune, ce livre, qui décrit les transformations de l'être au cours de la vie, donc l'enfant, l'adolescent, l'adulte, et ensuite la personne âgée, mais également les transformations par les maladies, et toujours en alliant le psychisme au physique, donc médecine globale. Très rapidement, je vous parle un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise. Elle nécessite trois entités. L'énergie, c'est une médecine énergétique, le sang et les liquides organiques. L'énergie qu'on appelle le qi, vous le retrouvez ce terme dans le qigong, vous le retrouvez également dans le tai chi, bon, que vous connaissez certainement. Ces trois entités, c'est-à-dire énergie, sang et liquides organiques, doivent être en équilibre. S'il y a déséquilibre, eh bien, il y a maladie. C'est très simple. Et donc, en médecine traditionnelle chinoise, le traitement, c'est un rééquilibrage. Alors, il y a des raisonnements propres à la MTC qui prennent toujours en compte les organes, mais aussi les sentiments. C'est donc bien une médecine globale. L'acupuncture scientifique, c'est de l'acupuncture traditionnelle, mais un petit peu à la sauce scientifique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des études scientifiques. On a vu que certains points stimulaient la production de médiateurs chimiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde connaît généralement l'adrénaline, qui est un médiateur chimique. On se donne un coup d'adrénaline, par exemple, quand on va sur les montagnes russes. Les sportifs de l'extrême stimulent leur adrénaline constamment. La sérotonine est également généralement bien connue maintenant. Elle est responsable de notre humeur. En particulier dans les dépressions, il y a souvent un problème avec la sérotonine. Donc vous voyez tout de suite que l'acupuncture va jouer dans les dépressions, va être utile, et non pas par des vues de l'esprit, mais parce qu'on a vu que certains points pouvaient stimuler la sérotonine, etc. Certains points sont en rapport avec des zones cérébrales. Alors ça, c'est donc un courant scientifique. Et on peut retenir deux propriétés basiques. L'acupuncture scientifique est antidouleur. Justement, elle stimule ce qu'on appelle les endorphines. Ce sont des substances chimiques que l'on a dans notre organisme que nous sécrétons dès que nous nous faisons mal pour atténuer notre douleur. Bon, par contre, le problème, c'est que souvent, nous n'en sécrétons pas assez. Eh bien, l'acupuncture va augmenter cette production. Donc elle est directement antidouleur. Elle est également anti-inflammatoire. Donc là également, je vous reparle sur cette diapo d'adrénaline, de sérotonine. Vous pouvez aussi voir la dopamine, le cortisol. Le cortisol, ce sont nos hormones anti-inflammatoires. Et il y a des points qui vont stimuler cette production. Donc là, on est très loin de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a donc certains points qui ont des propriétés vis-à-vis de certaines maladies et en tout cas un rôle indubitable et très important sur le système immunitaire. Actuellement, l'acupuncture scientifique fait l'objet de recherches mondiales, particulièrement aux USA, à l'université de Harvard, où il y a vraiment des recherches de haut niveau. Également au Japon, les Japonais font des observations et font des publications internationales. Également en Chine, mais la Chine, c'est juste le début, puisque la Chine a quand même été fermée pendant, sous Mao, a été complètement fermée à l'acupuncture, aussi bizarre que ça puisse paraître. L'acupuncture était interdite sous la Chine de Mao. Donc la scientifique et la traditionnelle se rejoignent, les mêmes points pour les mêmes effets. Les moyens de traitement, les aiguilles, les moxa, le laser, qui sont les principaux. Bon, il y en a d'autres. En fait, il suffit stimuler un point. Pas n'importe quel point, évidemment. Il y a des protocoles bien établis. Ou alors à établir. Donc là aussi, on fait un diagnostic, comme en médecine allopathique traditionnelle occidentale. Voilà. Je vous parle maintenant de l'homéopathie, qui est une deuxième médecine alternative, très très utilisée et utile. C'est une méthode de traitement par utilisation de substances diluées, obtenues à partir des mondes minérales, végétales et animales. Elle est inspirée des travaux du médecin et théologien suisse Paracels au XVIe siècle. Donc elle est quand même assez ancienne, mais il n'y a rien de comparable avec l'acupuncture. Elle a été réellement fondée par Samuel Hahnemann, un Allemand, donc 18e, 19e siècle, qui était médecin, pharmacien, chimiste et professeur d'université, quelqu'un de très érudit. Il a repris les travaux de Paracels et, comme je vous ai dit, ce sont des substances diluées. Il a inventé sa méthode de dilution lui-même en 1796. Il avait un homologue, enfin homéopathe, mais non médecin, avec 30 ans environ de décalage. Il est né, c'est Semyon Nikolaevich Korsakov, en 1788 à 1853, donc 19e siècle plus tôt. Il était propriétaire terrien, mais il a fait la guerre. Il était au combat et il a soigné des épidémies de choléra lors des guerres de 1830 et 1847 en Russie, et il traitait les gens, n'étant pas médecin, mais il les traitait avec de l'homéopathie. Et comme la dilution de Hahnemann nécessite plein de petits tubes, c'était absolument infaisable sur un champ de bataille, il a mis au point une méthode de dilution avec un seul tube. C'est donc une homéopathie un peu différente. L'homéopathie est basée sur plusieurs milliers d'observations de malades, de maladies, avec deux choses qu'il est important de comprendre en homéopathie. La conclusion que chacun est différent et a une manière différente de subir la maladie selon son propre terrain. Donc le traitement doit être individualisé. Ça, c'est ce qui fait l'originalité, on peut dire, de l'homéopathie par rapport à l'allopathie. Vous avez mal à la tête, vous prenez un paracétamol. En allopathie, en homéopathie, il y a de multiples façons d'avoir mal à la tête. On essaye de savoir comment le malade a mal à la tête et il y aura des remèdes homéopathiques différents selon la localisation, l'intensité, la fréquence des maux de tête, etc. Paracels se disait aussi déjà, ce qui est une nourriture pour l'un est un poison pour l'autre. Donc n'importe qui ne fait pas n'importe quelle maladie. Certains sujets sont prédisposés. Et c'est la notion qu'on appelle le type sensible, qui implique une prise en charge globale de l'individu, physique et psychique. Parce que, partant de ce constat, que chacun est différent, on est obligé de prendre, dans un interrogatoire homéopathique, tous les petits détails du psychisme, enfin le plus possible, autant que faire se peut, du psychisme et du physique de notre patient. Alors, on a créé Hahnemann et Korsakov ont créé des listes de réactions individuelles. On a donc des sortes de cartographies qui correspondent à des types homéopathiques. Avec ces observations et de malades et de maladies, on a vu aussi, enfin, Hahnemann a vu que la cause de la maladie peut devenir son traitement. C'est là aussi la deuxième originalité de l'homéopathie. C'est ce qu'on appelle le principe de similitude lorsque cette cause est donnée en dilution infinitésimale. Exemple, un toxique donne une maladie, le même toxique dilué, alors j'aurais même pu mettre plus que 4 croix après, hein. Ce sont les dilutions qui sont jusque dans les centésimales, c'est-à-dire des centaines de fois diluées, et bien ce même toxique dilué des centaines de fois entraîne la guérison. C'est une médecine de symptômes, c'est une médecine de terrain. De symptômes, tous les problèmes de stress, les problèmes ORL, problèmes digestifs, les allergies. C'est une thérapie adjuvante en cancérologie, ça ne dispense pas d'une chimio, hein, je préfère le préciser tout de suite, mais c'est un excellent soutien pour tous les effets secondaires des chimiothérapies. Également dans les problèmes gynécologiques, les problèmes ostéo-articulaires, enfin c'est une médecine à part entière, hein, de toute façon. Symptômes et terrain. Sous forme de granules, de globules, de comprimés, de gouttes, de suppositoires, de pommades, de collyres, enfin vous avez tout. Il y a un grand laboratoire qui fait ça sur Lyon et qui dispatche sur toute la France, et même hors de France. Je vais finir avec la micronutrition, brièvement. Je vous rappelle que notre organisme est un assemblage de cellules pour fonctionner ont besoin d'énergie. Elles puisent cette énergie à partir de l'alimentation, alors sous forme de macronutriments et de micronutriments. Les macronutriments, généralement, tout le monde les connaît, ce sont les lipides, les glucides, les protides. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les oligoéléments, les antioxydants, les acides gras essentiels. Ils sont absolument indispensables à notre santé. Et on comprend, en faisant de la micronutrition, l'importance de notre alimentation de tous les jours qui apporte donc ces micronutriments. Avec une carence, eh bien, on devient malade. L'importance du style de vie également de la personne, le terrain, c'est-à-dire que si elle vit dans un environnement pollué avec des toxiques ou si elle est très stressée, les micronutriments ne vont pas pouvoir avoir accès à son organisme. Également l'importance de l'assimilation, ces micronutriments qui nous arrivent par l'alimentation, il faut qu'ils soient bien assimilés, donc non seulement il faut qu'ils soient dans l'alimentation déjà, donc une bonne alimentation, mais il faut qu'ils soient assimilés, donc que notre tube digestif soit en bonne santé. Là, on parle de la perméabilité intestinale en particulier, vous savez qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis, notre intestin est notre deuxième cerveau. Voilà, enfin bon, je ne vous en dis pas plus, mais c'est hyper intéressant comme voie de recherche et de thérapie. Notre intestin est un véritable filtre, il filtre les micronutriments qui sont bons et il doit arrêter évidemment les toxines. Mais ce n'est pas si simple, effectivement, évidemment, dans la vie de tous les jours. Et puis, importance de la flore intestinale, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, notre flore que nous avons tous dans notre intestin, également dans d'autres, dans tout notre organisme en fait, et qui doit être équilibré. On va rechercher les carences, on va rechercher les intoxications, les intolérances, les déséquilibres qui entraînent toutes et tous des pathologies. On essaye de trouver la source des dysfonctionnements et on essaye de corriger ces troubles pour retrouver un état d'équilibre. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à...
Merci. On va retrouver... Ça doit être ça. On va essayer de faire fonctionner la technique. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de l'aromathérapie aussi en 10 minutes. Donc, il y a un certain nombre de choses que je vais pouvoir dire qui rejoignent évidemment ce qu'a dit le docteur Boucher, puisqu'on va être aussi là dans des thérapeutiques qui essaient de favoriser une prise en charge globale et en essayant de rester pragmatique sans trop rentrer dans les détails. Et on parle là aussi de plusieurs courants d'aromathérapie. Moi, je vais vous parler plutôt de l'aromathérapie scientifique et médicale, puisqu'il y a aujourd'hui aussi dans ce domaine-là énormément de recherches. Juste un petit mot, pourquoi un cadre de santé s'intéresse à l'aromathérapie ? Tout simplement parce que déjà dans ma vie, j'ai toujours utilisé les plantes, l'aromathérapie, mais ce qu'on fait pour soi n'est pas forcément la même chose que ce qu'on peut proposer à des personnes malades. Et puis dans ma carrière d'infirmière, j'ai très très souvent entendu des patients qui nous disaient moi je prends ça, je fais ça, mais qui n'osaient pas en parler aux équipes médicales. Alors les choses évoluent beaucoup, mais ça m'a semblé intéressant, et on est beaucoup d'infirmières à s'être intéressées à ces techniques-là. C'est plus intéressant de comprendre et de connaître pour donner de beaux conseils plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. Donc de là, j'ai trouvé intéressant, après avoir utilisé pour moi, pour mes enfants, dans ma vie de tous les jours, de faire une formation qui puisse me permettre d'essayer d'intégrer toutes ces nouvelles, à l'hôpital en tout cas, thérapeutiques dans le milieu hospitalier et dans nos pratiques hospitalières. Alors un petit mot d'histoire aussi, puisque l'aromathérapie c'est une branche de la phytothérapie. C'est clair que l'utilisation des plantes remonte à la nuit des temps. Alors là on voit des techniques avec des plantes, avec des onguents, avec différentes pommades. Ça existe encore dans la médecine traditionnelle. Et puis on va voir que dans toutes les civilisations on retrouve des choses particulières. Par exemple, en Égypte, la plus grande connaissance qu'on ait aujourd'hui, c'est l'utilisation des plantes médicinales dans l'embaumement. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé des momies en si bon état ? Tout simplement parce qu'on utilisait déjà certaines plantes qui permettaient de conserver les corps. On retrouve des traces dans la société babylonienne, où là, on utilisait l'encens pour combattre les épidémies, qui étaient très fréquentes à ce moment-là. Donc on a acquis petit à petit un savoir empirique. Et on verra comment aujourd'hui on est passé d'un savoir empirique à un savoir beaucoup plus, on va dire, scientifique. Dans la médecine chinoise, bien sûr, puisque au départ, l'aromathérapie est aussi une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Alors la phytothérapie, aujourd'hui on l'a un petit peu oubliée, mais elle a tenu une place prépondérante dans la médecine et dans les traitements traditionnels jusqu'au début du XXe siècle. Ce n'est pas si ancien que ça. Et puis, petit à petit, les progrès de la chimie nous ont fait passer de ces médicaments traditionnels à base de plantes qu'on connaissait bien, que chacun connaissait, on avait dans son jardin. Il y a plein de proverbes, si vous jardinez, qui a de la sauge en son jardin, c'est très compliqué à dire, ne connaît point le médecin. Donc, il y a plein d'exemples comme ça d'utilisation. Donc, on est passé petit à petit à la fabrication de médicaments synthétiques et modernes, ce qui fait que jusqu'au début du XXIe siècle, on a relégué petit à petit les plantes médicinales aux matières premières et puis aux remèdes de bonne femme. Donc pendant très longtemps, ce n'était pas très sérieux de parler de ces médecines-là. L'exemple typique, c'est la tisane. Alors que la tisane, il y a 100 000 formes de tisane différentes. Et que la tisane, elle peut être thérapeutique si on connaît les dilutions, si on connaît la manière de s'en servir, si on connaît comment utiliser la plante. Alors après avoir parlé de phytothérapie, c'est quoi la différence entre la phytothérapie et puis tous ces petits tiroirs de nos herboristes qui ont disparu aujourd'hui ? C'est quoi la différence entre la phytothérapie et l'aromathérapie ? La phytothérapie utilise différentes parties d'une plante. Alors on peut avoir l'utilisation des feuilles, des fleurs, de la racine. Chacune des parties de la plante ayant des propriétés particulières. En aromathérapie, on va utiliser un extrait de toute une partie du plante, un extrait qui est très concentré. Aromathérapie, c'est aroma, les odeurs, et thérapia, les soins. C'est pour ça qu'on nomme ce principe actif une huile essentielle, mais ce n'est pas du tout de l'huile. C'est le nom qu'on lui donne. On devrait plutôt dire une essence de plante. Comment est-ce qu'on obtient les huiles essentielles ? Par distillation. Donc, quand on verra tout à l'heure les critères de qualité, parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode, mais il faut savoir quand on achète une huile essentielle la choisir et avoir en tête ce qu'on veut en faire. Et on n'achète pas n'importe comment n'importe quelle huile essentielle. Donc les composés aromatiques, c'est tout simplement un alambic. Alors mon petit dessin est un peu, j'espère qu'il est clair. Les composés aromatiques, ils sont entraînés par la vapeur d'eau. Ensuite, ils vont être condensés et récupérés dans un décanteur. Et puis, le distillat qu'on obtient est composé d'abord d'huile essentielle qui va surnager. Et puis, le reste, l'eau de distillation, c'est ce que vous connaissez tous. C'est ce qu'on appelle un hydrolat. Et l'exemple le plus connu, c'est l'eau de rose. Tout le monde connaît l'eau de rose. C'est un hydrolat aromatique. Donc, dans ce résidu de distillation, on a une infime partie des huiles essentielles. Et les hydrolats peuvent être très intéressants parce qu'ils sont beaucoup moins concentrés. Mais ce serait trop simple s'ils avaient exactement les mêmes propriétés que les huiles essentielles. Donc c'est aussi vraiment une utilisation à part entière, l'hydrolathérapie. Alors on a défini ce qu'était une huile essentielle. Et du coup, l'aromathérapie, en soi, c'est une médecine naturelle et qui repose sur les propriétés biochimiques des principes actifs des huiles essentielles. Mais ce qu'on a constaté, c'est que outre ces propriétés particulières de tel composé chimique, de telle huile essentielle, il peut y avoir entre 20 et 40 principes actifs dans la même huile essentielle. Donc c'est aussi pour ça qu'on va associer différents produits et nous permettre de retrouver un certain bien-être en plus de l'action sur le symptôme sur lequel on veut agir. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Là aussi, l'aromathérapie, elle agit de manière globale et elle considère l'individu comme une entité à part entière, avec une entité psychique, une entité physique, et puis toute la dimension énergétique, que je ne développerai pas ici parce que ce serait beaucoup trop long. Alors, donc, c'est une approche globale qui s'adresse vraiment à tout un chacun, hein, puisque contrairement à la médecine allopathique qui va traiter un symptôme, on va essayer, comme dans l'acupuncture, de repérer quel déséquilibre est en jeu. Si on prend l'exemple de la douleur, on ne va pas choisir la même huile essentielle pour tous les patients douloureux. On peut être douloureux et dépressif, mais on peut aussi être douloureux et angoissé. Donc on ne choisira pas le même produit, même si on agit sur la douleur, parce qu'on sait, par exemple, que la douleur est un phénomène complexe qui associe le psychisme et le physique, comme les trois quarts des symptômes. Mais bien sûr, on va essayer d'agir dans les deux espaces en même temps. Donc ça peut aussi constituer un apport intéressant en soutien de beaucoup de maladies chroniques, et c'est très utilisé aussi en prévention, hein, puisqu'on va permettre de stimuler nos défenses naturelles grâce à certaines huiles essentielles. Alors, encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de remplacer les thérapeutiques allopathiques. On ne va pas remplacer une chimiothérapie, par exemple, par des huiles essentielles. Ce n'est absolument pas la question. Par contre, on va pouvoir permettre au patient, là aussi, de l'aider à supporter certains traitements. Alors, comment ça marche ? L'activité d'une huile essentielle, je vous l'ai dit, elle repose sur sa composition, hein, et sur les molécules qui composent l'huile essentielle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches scientifiques justement sur ces propriétés. On va se rendre compte que ces molécules agissent à différents niveaux. Donc il y a ce qu'on appelle une action directe. C'est par exemple ce qui est le mieux connu aujourd'hui, ce sont les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles. Et comme avec les antibiotiques, on peut faire des aromatogrammes. Vous connaissez tous l'antibiogramme. On va pouvoir faire des aromatogrammes. On va prélever sur le patient et puis on va mettre en contact le germe en cause avec lui une huile essentielle ou plusieurs pour repérer laquelle est la plus efficace. Et ça fonctionne comme les antibiotiques. On repère la concentration minimum efficace et on va pouvoir donner un traitement d'aromathérapie. Alors je précise simplement que l'aromathérapie en soi, la voie orale est quasiment pas utilisée. Et si elle est utilisée, elle doit être prescrite par des médecins formés à l'aromathérapie. Elles sont très volatiles et elles sont très efficaces par voie cutanée. Donc là aussi, on n'est pas forcément dans quelque chose qu'on va ingérer parce qu'elles sont encore une fois très concentrées et elles peuvent être aussi très corrosives pour le système digestif. Hein. Donc il faut savoir que la voie cutanée est vraiment une voie de choix, surtout qu'on va y associer un massage ou la voie par diffusion, on verra aussi tout à l'heure. Donc le composé principal de l'huile essentielle qu'on a choisi va agir sur un symptôme particulier, la douleur, la nausée, des contractures, des choses comme ça, mais les éléments secondaires vont intervenir en synergie et on va permettre aux patients aussi de choisir. On verra qu'il y a l'impact sensoriel et le patient devient acteur puisqu'il va choisir aussi celle ou le mélange qui va être le plus agréable au niveau olfactif. Vous pouvez savoir que la lavande est très efficace pour être apaisante. Si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, je doute fort que ça vous aide à vous endormir. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle aussi les actions indirectes. Et pour faire court, j'aime bien cette petite phrase qui dit que la mémoire oublie, mais le nez se souvient. Alors c'est la petite Madeleine de Proust que vous avez sans doute tous expérimenté. Là, si je vous demande de penser tous à une rondelle de citron, vous allez peut-être dans pas longtemps avoir le goût du citron dans la bouche. Donc c'est en lien avec la mémoire olfactive. On connaît aussi de mieux en mieux tous ces circuits. On sait aujourd'hui comment se constitue la mémoire olfactive et la bibliothèque d'odeurs que nous avons tous dans notre cerveau au cours du temps. Et aujourd'hui, il y a des recherches récentes à base de techniques modernes, les IRM, puisqu'on est dans un monde cartésien, qui permettent de comprendre comment fonctionne cet impact olfactif. Et on sait aujourd'hui mesurer l'impact sensoriel, l'impact sur les émotions et le psychisme de certaines odeurs. Mais il y a aussi des huiles essentielles qui sentent très mauvais. L'huile essentielle d'ail, ça sent l'ail. Donc vous voyez, il y a différentes manières d'utiliser les huiles essentielles et je ne crois pas que vous ayez envie de diffuser de l'huile essentielle d'ail. Mais elle est très efficace sur la circulation. Donc ce n'est pas les mêmes utilisations. Alors, quelques propriétés chimiques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous l'ai dit, la composition chimique d'une huile essentielle, elle est très importante, mais elle est complexe. Et à chaque classe chimique, on a une réponse thérapeutique différente. D'où l'importance de connaître ce qu'il y a dans le flacon d'huile essentielle que vous allez acheter. J'ai mis là les composés chimiques les plus fréquents qui parleront aux gens qui sont... Par exemple, les pharmaciens connaissent très bien les huiles essentielles. Les phénols, on en retrouve dans plein de médicaments. Ils sont en général anti-infectieux, des alcools terpéniques, des cétones. Je ne vais pas tous vous les citer, mais aujourd'hui, on connaît bien les compositions des huiles essentielles. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir laquelle utiliser. Tout ça pour en arriver à la notion, je crois que j'ai mise après, de ce qu'on appelle le chémotype d'une huile essentielle, donc la race chimique. Par exemple, vous avez dû entendre parler de l'huile essentielle de thym, d'eucalyptus. Ça ne veut rien dire. Il y a des dizaines de thyms différents. Il y a des dizaines d'eucalyptus différents qui peuvent avoir des propriétés et des contre-indications complètement différentes. Tout ça, c'est lié à la synthèse, à ce que produit la plante. En fonction du terrain, de l'ensoleillement, de la saison, une huile essentielle n'a pas forcément la même composition. Alors, j'ai mis un petit exemple, justement, à partir du thym. Donc quand vous regardez du thym, vous en avez dans votre jardin, c'est du thym. Mais quand on analyse ce qu'il y a dans le thym, on va se rendre compte que par exemple le thym qui pousse sur tout le pourtour méditerranéen, il a des grandes variabilités en fonction du moment, en fonction de son origine, en fonction du lieu où on va le récolter. Dans le Var, par exemple, au bord de la mer, quand on va déjà ce thym-là, il n'a pas la même odeur. C'est très, très. Quand on les connaît bien, on reconnaît parfois à l'odeur de la plante quelle huile essentielle on va pouvoir en tirer, mais pas toujours. Il faut avoir un nez de parfumeur pour ça. C'est très particulier. Donc ce thym-là, quand on l'analyse, il contient du thymol. C'est pour ça que vous verrez écrit sur le flacon CT, donc chémotype thymol. Ce thym à thymol, il est dermocaustique. Il peut être hépatotoxique si vous en preniez tous les jours par voie orale pendant très longtemps, à dose élevée et prolongée. Si on se déplace un petit peu dans la région du pourtour méditerranéen, dans l'arrière-pays, on trouve aussi du thym. Celui-là, il n'a pas tout à fait la même odeur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il sent un petit peu la sarriette. Il a moins d'odeur phénolée que le premier. Et ce thym-là, quand on l'analyse, il va produire une huile essentielle à base de tujanol. Et le tujanol, contrairement au thymol, il est très, très bien supporté par la peau. Donc, vous voyez, déjà, il n'a pas la même utilisation. Il est très sûr d'emploi. Il n'a pas de contre-indication. Et on va pouvoir le prescrire à des personnes plus fragiles, mais pas forcément le thym à thymol. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tous ces produits-là sont très à la mode. On en trouve partout, mais il faut savoir lire l'étiquette. Et donc, il faut toujours, à visée thérapeutique, acheter des huiles essentielles qu'on appelle biochimiquement définies. Donc, vous verrez le petit sigle HEBDD sur le flacon, huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie, ou HECT, huile essentielle chémotypée. Un autre élément important, les huiles essentielles sont très concentrées, donc elles concentrent aussi énormément les pesticides. Donc là aussi, attention à l'origine de l'huile essentielle. C'est beaucoup plus sûr d'utiliser des huiles essentielles biologiques ou au moins éco-certifiées que d'acheter un flacon sur lequel vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans le flacon. Alors, un petit mot sur leurs propriétés physiques. Là aussi, je pense que c'est important à savoir pour tout le monde. Elles sont plus légères que l'eau. Elles ne se mélangent pas dans l'eau. Donc, quand vous voyez moi, j'appellerais ça plutôt des recettes que des protocoles, de l'huile essentielle dans le bain, attention, on peut tout simplement se brûler. L'huile essentielle, on va la diluer dans du bain moussant, on va la diluer dans du lait, tout simplement, mais jamais pure dans l'eau, puisque quand vous allez entrer dans l'eau, l'huile essentielle va rester sur la peau, et si elle est dermocaustique, on peut provoquer des brûlures. Elles sont très volatiles, c'est ce qui explique leurs propriétés olfactives, c'est ce qui explique aussi qu'il faut avoir des flacons qui sont parfaitement étanches si vous voulez les conserver. Elles sont très très fragiles à la lumière, donc elles sont forcément dans des flacons marron ou bleu. Les soi-disant huiles essentielles dans des flacons transparents ne sont pas des huiles essentielles, mais souvent des huiles de synthèse, pas du tout des huiles naturelles. Alors elles se conservent jusqu'à 4 ou 5 ans dans un flacon qui n'est pas entamé, à l'abri de la lumière. Quand vous avez utilisé et ouvert un flacon, elles se conservent environ 3 mois, à condition de bien refermer le flacon et de le mettre à l'abri de la chaleur et à l'abri de la lumière. Donc, c'est important aussi à savoir, les huiles essentielles, elles ne contiennent ni alcool, ni protides, ni glucides, ni vitamines, ni aucun oligo-élément, ni sels minéraux. Donc, elles sont complètement neutres à ce niveau-là. Le label de qualité, je vous l'ai dit, le plus sûr pour acheter une huile essentielle, j'ai pris l'exemple de la carotte, qui n'est pas très connue, mais qu'on utilise aussi beaucoup pour les problèmes hépatiques ou pour les problèmes de peau. Si je veux de l'huile essentielle de carotte, je vais trouver sur l'étiquette le nom latin qui va permettre de nous expliquer d'où vient la plante. Donc, par exemple, la carotte, Docus en latin, c'est le genre botanique. L'espèce, c'est la carotte. Celle-là, elle venait de Yougoslavie, donc Varsativa, et elle fait partie, cette plante, de la famille des Apiacées. Donc on doit trouver tout ça sur une étiquette, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à lire les étiquettes avant de les acheter. Un petit mot sur le coût des huiles essentielles. Là aussi, certaines peuvent sembler coûter très cher, mais c'est tout simplement lié au rendement par rapport à la distillation. Donc j'ai mis quelques exemples. Pour avoir un kilo d'huile essentielle de clou de girofle, Il faut 7 kg de clou de girofle. Et vous voyez qu'une des huiles essentielles la plus chère, qui est l'huile essentielle de mélisse, là, il faut 5 à 10 tonnes de fleurs de mélisse pour faire 1 kg d'huile essentielle. Donc ça explique le coût et les variations de coût qui peuvent être liées aussi aux saisons. C'est parfois pas très intéressant de vouloir manger des fraises en plein hiver. Ben, c'est intéressant de les connaître toutes pour choisir celle qui, en ce moment, sera produite la plus naturellement. Alors, quelques précautions d'emploi aussi qui sont importantes à connaître. Jamais d'injection d'huile essentielle. Alors, ça a existé aussi, mais aujourd'hui, c'est interdit. Jamais d'huile essentielle pure dans le nez ou sur les muqueuses, ni dans les oreilles. Donc, il y a aussi, on voit plein de recettes fleurir partout, notamment sur Internet. Jamais d'huile essentielle dans les yeux, pure. Et puis, là aussi, bien sûr, pas d'aérosol d'huile essentielle chez les personnes allergiques ou asthmatiques, sauf certaines qui seront prescrites par un médecin aromathérapeute. Et puis, bien sûr, par précaution, pas d'huile essentielle chez les femmes enceintes ou allaitantes, ni chez les enfants de moins de 3 ans. Et ça, c'est vraiment des précautions à prendre qui sont importantes. Alors, certaines aussi peuvent être irritantes pour la peau, donc il faut toujours vérifier le protocole de dilution. Il y en a certaines qu'on peut utiliser pures, d'autres non. Il faut les diluer absolument dans une huile végétale, quelle qu'elle soit. Quelques effets indésirables aussi. Certaines sont allergisantes. Alors, la menthe poivrée, elle peut être allergisante, mais il faut savoir qu'il existe d'autres menthes. La menthe des champs est beaucoup moins allergisante. Elle a les mêmes propriétés sur les céphalées, par exemple. La cannelle peut être aussi très allergisante. Elles sont parfois photosensibilisantes. Tous les agrumes sont photosensibilisants. Donc, on ne met pas d'huile essentielle sur la peau avant d'aller au soleil. Sinon, vous allez avoir une jolie petite tache marron. C'est ce que provoquent certains parfums qui sont à base d'huile essentielle d'agrumes. Certaines peuvent être neurotoxiques et abortives. C'est celles qui contiennent des cétones ou des lactones. Donc là aussi, si on ne les connaît pas, ben on évite d'utiliser celles-là puisque c'est marqué sur le flacon. Néphrotoxique pour d'autres, alors c'est à des concentrations particulières. Tout est une question de dose et de voie d'administration. celles qui sont à éviter, il faut savoir qu'il y en a quelques-unes en vente libre. Celles qui sont les plus difficiles à manipuler ne sont vendues que sur ordonnance en pharmacie. Et il y en a une quinzaine qui sont classées parmi les substances vénéneuses. Donc, auxquelles, de toute façon, c'est tout à fait logique, puisqu'il n'y a aucune utilité thérapeutique. Par exemple, l'huile essentielle de moutarde sert à fabriquer du gaz moutarde. Donc, je pense qu'on ne va pas l'utiliser à visée thérapeutique. Donc, quelques précautions chez les personnes épileptiques, avec certaines huiles essentielles qu'il faut éviter, dans l'hypertension aussi. Et puis, par contre, bien sûr, des indications qui peuvent être multiples. Elles ont vraiment une place de choix dans la prise en charge globale, à plusieurs niveaux, thérapeutiques sur certains symptômes, psychiques aussi par le biais de la diffusion et des massages et de l'impact sensoriel. Et puis, bien sûr, permettre à la personne de retrouver un certain bien-être global, aussi par tout simplement l'agrément d'une bonne odeur. Alors j'ai essayé, j'espère que ça va fonctionner, de vous mettre quelques petits exemples, parce qu'en plus, l'aromathérapie, c'est beau. On va faire un peu de poésie. Alors sur le traitement des odeurs, j'espère que ça fonctionne. Je cherche... On va essayer là. Ben, c'est raté. J'avais une chance sur deux pour que ça fonctionne. Voilà. Une qui est peu connue, le néroli, hein, qui va avoir un effet très apaisant au niveau psychique. On va choisir les troubles digestifs, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, vous en avez peut-être dans votre jardin, la coriandre, qui est une épice très connue, mais il existe de l'huile essentielle de coriandre qu'on va proposer dans certains syndromes digestifs qui peut être intéressante. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue. La camomille romaine, qui est très, très utile pour les troubles du sommeil. Une forme d'eucalyptus qui s'appelle eucalyptus radié, hein, qui n'est pas du tout le même que l'eucalyptus, par exemple, globulus, qui, lui, pourrait provoquer des allergies. L'eucalyptus radié, on peut l'utiliser même chez les enfants. Et puis, pour faire le lien avec l'utilisation au CHU, là, je vous ai mis un petit exemple d'utilisation. Donc ça, c'était l'année 2014. Dans un des services du CHU, à l'unité de soins palliatifs, on a répertorié les différents symptômes sur lesquels on les avait utilisés et les voies d'administration. Et on a essayé de voir ce qui était le plus efficace. Le mieux toléré. Donc on a commencé par le traitement des odeurs. Les odeurs à l'hôpital, c'est particulier, donc ça peut aussi être intéressant pour les patients, pour les familles. On a travaillé aussi sur des protocoles pour permettre de lutter contre les troubles du sommeil ou l'anxiété, sur les céphalées, la douleur, bien sûr. Et puis, très rapidement, on a proposé un protocole d'aromathérapie pour les soins de bouche chez certains patients. Et de là, on s'est rendu compte rapidement des résultats et on a souhaité mener une étude scientifique pour essayer de confirmer ou d'infirmer, ça dépendra des résultats de l'étude, les résultats qu'on obtenait, qu'on avait observés de manière empirique. Donc ce projet aujourd'hui, qui s'appelle le projet SOBO, s'ouvre à l'extérieur de ce premier service. Et le souhait, grâce au fonds Aliénor, c'est d'étudier l'efficacité de certaines huiles essentielles dans les soins de bouche, dans différents services, pour comparer si les résultats sont les mêmes que les premiers qu'on avait obtenus. C'est une étude comparative randomisée, ça veut dire que la moitié des patients auront des soins de bouche, s'ils sont d'accord, bien sûr, s'ils le souhaitent, avec des huiles essentielles, et l'autre groupe aura des soins de bouche au bicarbonate, qui est une prescription très très fréquente et donc on va essayer d'aller jusqu'au bout de cette étude et on a surtout repéré qu'il y avait beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les traitements habituels chez des malades fragiles. Donc ça c'est le poster que je devais apporter et que je n'ai pas pu apporter qui explique un petit peu cette étude. Et ça c'est nous à la fin de la journée, après la diffusion. Merci. me tourne un petit peu. Juste un petit peu. Ouais, tu me casses. Non, comme ça, c'est bien. Ah, ben oui, on est joué. Tu appuies là, tu
vois. Oui, à droite.
Ici, pour avancer, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'hypnose. Donc, en fait, donc, je suis infirmière. Je me suis formée à l'hypnose au cours de mon exercice libéral. J'ai d'abord travaillé à l'hôpital. Ensuite, je suis partie en libéral, infirmière libérale. Et donc, j'ai fait une formation sur 2 ans en hypnose ericksonienne. Et j'ai ensuite passé à un DIU d'hypnose médicale et clinique. Et là, en ce moment, je travaille au niveau du centre antidouleur. Où voilà, je vois des patients en hypnose qui ont besoin de soins. Alors, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique ? Comment j'en suis venue à l'hypnose ? Eh bien, en fait, c'est quand j'étais infirmière libérale, je me suis retrouvée à aller de temps en temps, 2 ou 3 fois par jour, des fois, chez des personnes qui avaient vraiment des douleurs très importantes. Et malgré tous les médicaments qu'on pouvait leur donner, eh bien, il y avait toujours des douleurs, en particulier des personnes qui... une dame à qui je pense qui avait une sclérose en plaques et qui avait qui était assez évoluée. Et on ne pouvait pas lui donner des doses plus importantes de morphine, parce que sinon, après, ça crée des dépressions respiratoires. Et je me suis dit, comment je pourrais l'aider ? Et je me suis dit, voilà, hypnose thérapeutique, je me suis intéressée à ça. Et voilà. Et l'hypnose est vraiment... quelque chose qui peut apporter un plus quand on ne peut plus donner autre chose, quoi. C'est un autre moyen d'aider les gens. Alors, qu'est-ce que l'hypnose ? Quelle définition on peut donner ? Alors, nous avons tous, enfin, tout le monde a en tête l'hypnose de Music Hall. En fait, l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec ça. Les personnes qui font de l'hypnose de Music Hall, en fait, ils ont un spectacle à faire, ils veulent faire rire. Et en fait, l'hypnose de Music Hall, ça donne une mauvaise image de l'hypnose. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été freiné et que ce n'est pas très, très développé. La définition on peut en donner plusieurs, des définitions de l'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience, donc on appelle ça EMC, ou un état de conscience modifié de soi. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on part tous en hypnose tous les jours sans savoir que c'est de l'hypnose. Par exemple, vous conduisez, ça vous est tous arrivé, vous conduisez, et puis à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte du temps qui est passé et vous dites, tiens, je suis déjà arrivé. Pendant tout un laps de temps, voilà, vous avez eu vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, ou vous vouliez tourner sur la droite et puis, hop, vous arrivez un peu plus loin, zut, j'ai oublié de tourner. Voilà, donc, en fait, l'hypnose spontanée, c'est un moment pendant lequel vous êtes un petit peu là dans la voiture et un petit peu ailleurs par la pensée. C'est-à-dire que votre esprit est totalement absorbé par vos pensées. Donc là, à ce moment-là, vous êtes dissocié. On peut donner un autre exemple. Par exemple, un élève qui est rêveur. Donc, il écoute l'institutrice. Puis à un moment donné, on voit bien qu'il n'écoute plus rien. Donc, soit il a tout compris et puis il s'ennuie. Mais en tous les cas, voilà, il est un petit peu là, présent dans la classe et un petit peu ailleurs. Il est dans ses pensées. Il est absorbé par ses pensées. Voilà, donc quand on parle d'un état modifié de conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas du sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'hypnose, c'est du sommeil. C'est absolument pas du sommeil. C'est un autre mode de fonctionnement qui fait qu'à un moment donné, par exemple, on ne va pas ressentir la douleur de la même façon. Et l'exemple le plus particulier, c'est par exemple un enfant qui tombe de vélo. Il tombe et puis il va courir chez lui. Et puis quand il va se poser chez lui, il va se rendre compte, soit que ça saigne de partout, et sur le moment, il n'a pas eu mal. La douleur va venir après. Au moment où il est tombé, il était dissocié, il était en état d'hypnose. Il était un petit peu là et un petit peu ailleurs, absorbé par autre chose. Voilà. Et donc, c'est important de ne pas se dire « Ah, l'hypnose, c'est ce qu'on voit à la télé. » Non, ça n'a absolument rien à voir. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour l'enfant qui tombe de vélo, c'est comme s'il se retirait de son corps quelques moments et du coup, il est coupé de ses sensations, il est coupé de ce qu'il pourrait ressentir au niveau du genou, par exemple. Voilà. Alors, pourquoi maintenant l'hypnose se développe de plus en plus ?
Eh bien, c'est que scientifiquement, si par exemple on vous demande de vous souvenir d'un moment agréable, et puis que l'on vous fait un scanner ou une IRM, on va se rendre compte qu'il y a des zones du cerveau qui fonctionnent. La même personne, si on la met en état d'hypnose, on se rend compte que c'est d'autres zones du cerveau qui vont fonctionner. Voilà, donc c'est vraiment scientifiquement, c'est vraiment prouvé que ce n'est pas le même fonctionnement pour quelqu'un qui a un fonctionnement normal et pour la personne qui est en état d'hypnose. Donc là, ce sont des zones en conscience normale et donc en hypnose, des représentations de zones qui vont fonctionner au moment d'un acte douloureux. Et de l'autre côté, la personne à qui on a fait de l'hypnose, et elle va ressentir beaucoup moins la douleur. Alors en fait, j'aime pas opposer les deux, mais voilà, Freud au départ, il a fait de l'hypnose et c'est d'ailleurs grâce à l'hypnose qu'il a pu découvrir qu'on avait un inconscient. Mais sauf que Freud, il n'était pas très bon, il n'avait pas de très bons résultats avec ses patients et du coup, il a laissé tomber l'hypnose et il a développé la psychanalyse. Et c'est Erickson, qui lui aussi était un psychiatre, mais un psychiatre américain, qui s'est de nouveau intéressé à l'hypnose et qui a vraiment développé l'hypnose que l'on pratique pratiquement tous, donc l'hypnose ericksonienne. Alors le mode de fonctionnement, comment ça fonctionne en gros l'hypnose? Donc nous avons un conscient et un inconscient. Le conscient, c'est tout ce qu'on fait, on s'assoit, on se lève, voilà. L'inconscient, en fait, dans l'inconscient, nous avons tous dans notre inconscient tout ce qu'on a fait depuis notre naissance, voilà. Et donc, une personne qui est en hypnose, mais en hypnose, par exemple, qui vient en consultation et qui va me demander, qui va me dire, je veux arrêter de fumer, par exemple. Donc, elle a son conscient, elle a son inconscient. Elle veut vraiment arrêter de fumer, mais elle ne sait pas comment elle va faire, parce que c'est sûr que le tabac, c'est quand même, c'est une drogue. Donc elle est motivée pour arrêter, mais elle ne sait pas comment elle va faire pour arrêter. Donc je vais lui permettre d'entrer en hypnose. Et une fois qu'elle va être en hypnose, je vais lui parler, mais je vais parler en gros à son inconscient. Et alors ce qui est important quand même, c'est moi je dirais d'aller voir quelqu'un de sérieux, parce qu'il y a quand même, il faut avoir une certaine éthique, dans le sens où quand je reçois quelqu'un en consultation, je ne vais agir uniquement que dans le but qu'elle m'a demandé. Par exemple, l'arrêt du tabac. Parce que il y a quand même, on a quand même accès à l'inconscient du patient. Comme je vous disais, l'hypnose est scientifiquement prouvée. Et c'est pour ça que de plus en plus, l'hypnose rentre à l'hôpital, des choses comme ça. Lors d'un soin douloureux, par exemple, c'est plus que de la distraction. C'est-à-dire qu'on permet à la personne que son esprit soit absorbé par autre chose que le soin douloureux en lui-même. Et si, par exemple, on va demander à la personne « qu'est-ce que vous aimez ? Où est-ce que vous voudriez aller ?» J'aimerais bien aller me promener dans les bois. Bon, d'accord, à un moment donné, la personne est absorbée par ce que je vais lui dire et elle est tellement absorbée par ce que je lui dis qu'elle en oublie le soin douloureux, si je peux dire, en gros, pour résumer. Alors, les indications de l'hypnose. Pour un soin douloureux, je vais dire, c'est de l'hypnose, le premier stade de l'hypnose. En consultation, ensuite, on va permettre à une personne qui a un problème de pouvoir résoudre son problème. C'est le but de la séance, en fait. Donc quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui n'a pas réussi tout seul, va demander de l'aide pour pouvoir arrêter de fumer, ou alors l'alcool, ou d'autres drogues, ou même le sucre. Il y a des personnes qui sont vraiment addictes au sucre et qui n'arrivent pas à s'en séparer, Alors c'est plus dur d'arrêter quand on est addict au sucre, parce que c'est pas on-off. Le tabac, c'est on-off, tandis que le sucre, il faut toujours continuer quand même à manger. On peut être un petit peu moins attiré par le sucre. Alors sinon, l'hypnose est indiquée aussi pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Alors pour permettre à une personne de s'endormir plus facilement ou de ne pas se réveiller plusieurs fois la nuit. Sinon, bah, c'est sûr que ça marche très très bien pour les personnes qui ont des douleurs, qui, malgré les médicaments, parce que c'est pareil, c'est comme les autres médecines, ça ne va pas vraiment remplacer un médicament, mais ça va permettre d'augmenter l'action d'un médicament, ou ça va permettre entre deux doses de médicaments, eh bien, en faisant une petite séance d'auto-hypnose, de se détendre, d'être mieux et d'avoir moins mal aussi. Et puis ça peut marcher aussi au niveau du stress, au niveau de toutes sortes de phobies, phobie de l'avion, phobie des examens. Voilà, donc contrairement à la psychanalyse où il faut vraiment beaucoup de séances, l'hypnose est une thérapie courte. Et c'est vrai que quelquefois, en deux ou trois séances, on arrive vraiment à de très bons résultats. Donc là, c'est une étude qui avait été faite, voilà, l'efficacité de l'hypnose par rapport à la psychanalyse, aux thérapies comportementales. C'est vrai que bon, bah, pour l'arrêt du tabac, une à deux séances souvent suffisent. Tout dépend du but, voilà, quelquefois, bon, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend de la personne. Et pour tout ce qui est douleur, en particulier douleur répétitive, douleur chronique, eh bien, dès la deuxième séance, en principe, je permets aux personnes d'apprendre l'auto-hypnose pour justement pouvoir s'exercer et ensuite pouvoir pratiquer cette hypnose chez eux, tout seul. Et donc, je les revois en principe une troisième fois pour voir si ça se passe bien, s'il faut rajouter d'autres choses. Voilà, et compléter, si des fois, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quoi, de faire de l'hypnose tout seul. Ça dépend des personnes. Voilà, donc l'hypnose, ça fonctionne bien. Et c'est pas assez connu, mais bon, c'est en train de rentrer dans les mœurs quand même. Enfin, voilà.
Donc moi je vais vous parler maintenant donc de sophrologie et plus particulièrement de sophrologie dynamique. Donc je suis infirmière et sophrologue. Alors pourquoi je me suis intéressée à cette pratique ? Je suis formée depuis 2004. Je me suis intéressée à cette pratique parce qu'à ce moment-là je travaillais dans un service auprès d'enfants malades, avec leur famille également, et j'étais à la recherche d'une pratique, d'un outil pour moi mieux vivre finalement les situations où l'émotion était bien sûr chargée, et aussi un moyen, un outil que je pouvais aussi apporter. Voilà, comment est-ce que moi je pouvais travailler sur moi et comment je pouvais après, en transmettant cet outil peut-être aux enfants, aux adolescents et à leur famille, voilà, quelle aide je pouvais apporter. Donc, quelques mots d'histoire. En fait, cette pratique, elle a été créée par un professeur, un psychiatre, Caicedo, en 1960, qui était psychiatre colombien, qui a vécu en Espagne, qui a beaucoup voyagé. Et lui, ce qu'il cherchait, c'était une pratique, voilà, un entraînement individuel, personnel, qui visait à aider la personne à trouver des ressources en elle-même, et donc de considérer cette personne dans sa globalité. Hein, ce qui revient un petit peu aux autres pratiques, c'est toujours considérer la personne dans son être entier, corps et esprit. Voilà. Il a beaucoup voyagé et il a créé donc cet outil, la sophrologie, donc qui veut dire étude et harmonie de la conscience, hein, à partir de techniques donc orientales, à partir du zen, à partir du bouddhisme, à partir du yoga, qu'il a complété avec d'autres pratiques telles que l'hypnose, la relaxation. Voilà. Il a fait un ensemble de toutes ces pratiques. Le but était donc de découvrir et d'aller à la recherche de nos propres ressources, c'est-à-dire comment identifier moi comment je suis, qu'est-ce que je suis, et comment je peux m'aider moi-même. Voilà. Ça, c'était vraiment son but. Et c'est tout un travail sur la conscience. La conscience, c'est une force. Alors nous, on décrit ça comme une force de captation, c'est-à-dire ça me permet de capter mon environnement, de l'intégrer également, mon environnement extérieur et puis mon environnement intérieur, puisque nous habitons dans un corps, en quelque sorte, dans notre maison. Donc c'est ce travail sur cette conscience, comment la renforcer. Alors il définit des critères de cette conscience, la notion de clarté, finalement ça se comprend assez bien, hein. Des fois on n'y voit pas très clair, de tonicité, hein, quand on est dépressif ou tout au moins un peu moins bon, on sent bien qu'on n'est pas suffisamment tonique pour comprendre un petit peu ce qui se passe. On définit aussi des champs de la conscience, hein, soit c'est un champ élargi ou alors un champ centré, parfois trop centré, ce qui fait qu'on ne voit plus l'extérieur, enfin ce qui nous entoure, et également la complexité. Plus on est bon dans la complexité de notre conscience, plus on va pouvoir appréhender à la fois notre intérieur et notre espace, tout ce qui nous entoure. Évidemment, la sophrologie a créé, c'est un arbre au début, hein, c'est un tronc, mais il y a des branches qui sont apparues. Et la sophrologie dynamique, elle a été après développée, disons qu'elle est issue des travaux d'un autre médecin français, le docteur Yves Davroux, qui est décédé en 2003, et qui lui a intégré d'autres notions, notamment des notions venant des travaux de Carl Rogers, hein, en termes de relations d'aide, des travaux également sur le, comment dire, en modifiant par exemple l'éthique de cette pratique, en simplifiant certains termes pour ne pas la laisser uniquement au niveau du milieu médical. Et il a introduit également une notion en lien avec les travaux d'un psychanalyste, Gustav Jung, sur l'individuation, c'est-à-dire la recherche de soi et justement sur la conscience, puisque nous avons également une conscience d'éveil, là nous sommes en train d'écouter, de parler, une conscience pathologique qui serait plus une conscience de maladie, notamment par exemple la dépression, et d'une conscience extraordinaire qui serait une conscience élargie dont je vous ai parlé. Donc voilà l'apport de ces travaux qui ont conduit à la sophrologie dynamique, dont moi c'est la formation que j'ai reçue, et qui aussi a modifié dans l'introspection dynamique. Lui, il s'est inspiré d'une pratique ancienne, orientale, le Douyin, qui a apporté aussi la notion d'énergie. C'est un automassage et c'est évidemment un travail corporel sur l'énergie que nous avons aussi en nous. Alors, ces notions d'éthique, on développe trois principes essentiels. L'autonomie, c'est notre autonomie à nous, hein. L'authenticité. Alors, et la responsabilité. Ces trois principes essentiels sont pour le sophrologue, mais aussi pour l'apprenant, la personne qui vient. C'est vraiment des choses qui sont mises en avant dès le début. Alors, c'est un rendez-vous avec soi sur un moment présent, un moment donné, puisqu'on travaille sur quelque chose dans l'instant. C'est aussi travailler sans jugement sur soi, et bien sûr sur les autres, c'est vivre juste à l'instant présent. Hein, donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et c'est une exploration de ce qu'on appelle nos intelligences. Alors, de la plus concrète, celle de notre intelligence corporelle, sensorielle, à la plus peut-être subtile, la transcendance. Donc, l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnel, c'est-à-dire notre qualité de notre émotion, notre ambiance émotionnelle. Hein, nous savons tous quelle est notre ambiance émotionnelle. Donc là, c'est quand même chercher à la mieux la définir et puis surtout à la modifier, à l'améliorer dans ce que nous avons besoin. Développer, travailler sur notre intelligence, de notre intuition, c'est faire travailler notre créativité. C'est-à-dire ne pas répondre toujours avec notre rationalité, qui est aussi une autre intelligence dont bien sûr nous sommes chargés, qui est très développée dans son monde, dans notre mode de fonctionnement occidental. Mais justement, travailler sur l'intuition, sur la créativité, c'est faire qu'on ne va pas donner devant une situation identique toujours la même réponse, c'est-à-dire sortir de certains fonctionnements automatiques que nous pouvons avoir. Et la transcendance, c'est quelque chose de plus subtil, c'est nous appartenons à un monde et même à un univers. Donc quelle est notre place à l'intérieur ? Alors pour qui ? Ça s'adresse à tout le monde, exception de certaines situations de maladies psychiatriques, où il y a des troubles de la personnalité qui font que cette méthode peut mettre la personne encore plus en difficulté. Alors les sophrologues, il y a des écoles, il y a des formations qui sont reconnues, validées. Et nous mettons en avance l'alliance que nous avons avec l'apprenant, la personne qui vient à nos séances, avec toujours ces notions d'authenticité, d'autonomie et de responsabilité. Et aussi, un simple exemple, pendant la séance, nous faisons la séance en même temps. Donc ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il y a une confiance, qu'il y a un partage de l'instant présent et un travail qui se fait chacun pour soi. Et la rigueur, c'est-à-dire que nous avons, c'est pas faire n'importe quoi, il y a toujours un protocole, il y a des principes, et quand je parle des différentes intelligences émotionnelles, c'est-à-dire que il y a un ordre, on passe toujours par le corps. C'est le corps d'abord, et il y a toujours des exercices à apprendre au niveau corporel. Ça, c'est un exemple de notre rigueur. C'est une pratique qui peut s'utiliser sur tous les lieux de soins, de rééducation, qui s'adresse aussi bien aux personnes en santé qu'aux personnes malades. Le monde du travail, ça peut être quelque chose qui peut apporter, bien sûr, dans la pratique du travail. Le sport, il y a beaucoup de préparations de sportifs qui se font avec des sophrologues. Le milieu scolaire, parce que ça apporte dans le domaine de la concentration, de l'écoute, de savoir comment se positionner. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux, de recherches qui sont faits entre la sophrologie et le milieu scolaire, entre la sophrologie et le milieu scolaire. Le principe, c'est renforcer le présent et le positif d'abord. C'est pour ça que notre principe, c'est travailler sur le présent, le renforcer. Qu'est-ce qui va bien ? Ça peut être tout simplement l'odeur du café le matin qui nous réjouit. Donc on travaille après sur les émotions. Voilà, on part de ça, le présent d'abord. Ensuite, c'est se projeter dans un avenir, peut-être ce soir, peut-être demain, pas forcément très loin. Et ça, au bout de peut-être une quinzaine de séances, regarder le passé. Le passé avec ses difficultés, des situations difficiles, mais à ce moment-là, les regarder autrement, avec ce que je suis maintenant. Et faire face aux événements de la vie, mieux vivre dans son corps, relancer sa créativité, je vous en ai parlé. Une séance, c'est une mise en disponibilité, c'est des moments, des exercices de déconnexion, des exercices physiques. C'est un travail sur la respiration, une introspection dynamique, des exercices et des préparations au baccalauréat, préparation à un examen, préparation à une épreuve, quelle qu'elle soit. Préparation au sommeil. Donc, je fais un peu plus vite. C'est surtout devenir acteur et prendre en main sa vie. C'est se projeter et c'est regarder autrement le passé. C'est s'entraîner. C'est une pratique. On peut dire après un art de vivre, une philosophie, mais en tout cas, c'est une pratique. Et évidemment, il y a beaucoup de domaines de développement, de recherche pour les enfants et aussi dans les neurosciences, puisque la plasticité du cerveau, faire un geste ou ne pas le faire, mais y penser et savoir ce que ça provoque, on a au niveau de l'IRM fonctionnel, par exemple, les mêmes zones allumées, comme tu as montré. Voilà, je vous ai mis des livres et donc la Fédération européenne auquel j'appartiens. Merci.
Merci à vous quatre, avec des séquences très complètes. Est-ce que vous avez des questions ? On va se donner un quart d'heure pour se poser des questions. Vous levez la main, vous me donnez le papier. Qui sera le premier ? Allez, je vais tenir le micro.
Je voudrais me réjouir de cette table, parce que ça aurait été absolument inconcevable il y a même 10 ans, d'avoir à la même table un hypnothérapeute, une sophrologue, une aromothérapeute et un acupuncteur. Donc merci à l'Espace Mendès France d'avoir fait ce pas énorme de faire venir des médecines alternatives dans un lieu scientifique. Merci beaucoup à l'Espace Mendès France et merci à vous pour la qualité de vos interventions.
Merci. Au CHU aussi, bien sûr. Justement, vos méthodes sont complémentaires. Vous pouvez travailler ensemble. Vous travaillez souvent ensemble.
Donc, y a plusieurs médecins qui pratiquent l'acupuncture dans le service où je travaille, là, au centre antidouleur. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui vont voir l'acupuncteur, ils se rendent compte qu'il y aurait peut-être aussi besoin d'hypnose ou l'inverse.
Tout à fait.
Hein, c'est vrai, hein, c'est...
Oui, hypnose, sophrologie, on est tous complémentaires et dans le service du CHU, le centre antidouleur, on est tous en communication les uns avec les autres. Voilà, à la demande des patients, mais aussi nous y pensons pour certains de nos patients, on se dit tiens, ça lui ferait peut-être du bien s'il pouvait avoir des séances d'hypnose ou des séances de sophro, etc. On est tous complémentaires.
Dans les services de soins aussi, hein, on associe de plus en plus aujourd'hui l'hypnose. Il y a de plus en plus de soignants qui se forment à l'hypnose. Dans certains services, l'hypnose, l'aromathérapie. On essaie d'associer différentes techniques en fonction du lieu, en fonction du profil des patients, puis en fonction de leur choix et des personnes formées ou non dans les services. Mais ça commence vraiment à se développer de plus en plus.
Oui, je crois que ça s'adresse particulièrement aux personnes qu'on dit chroniques, en fait, à toutes les maladies chroniques pour lesquelles on sait bien qu'il ne peut pas y avoir une seule réponse. Et donc, c'est dans ce sens-là où c'est complètement complémentaire.
Merci. D'autres questions ? Vous êtes timide ce soir. Ah, j'arrive, madame.
Ah, pardon. Oui, bonsoir. Savez-vous si sur le CHU, il y a d'autres médecines alternatives qui sont, pour l'instant, peut-être pas officiellement utilisées, mais à part les quatre que vous venez de nous présenter?
Je pense qu'il y a des sages-femmes formées à l'homéopathie ou en cours de formation, puisqu'on en a parlé il y a quelques temps.
Oui, mais c'est toujours l'homéopathie. Voilà.
Bien tendre le micro, s'il vous plaît.
Je sais que pour les brûlures, des fois, on fait appel à des personnes qui touchent. Enfin, je sais que ça se fait chez les grands brûlés. Oui, ça se fait. Hein. Oui.
D'accord. Donc, une vraie ouverture sur ces médecines parallèles, j'allais dire.
Oui, c'est pas encore. C'est une ouverture.
Je pensais notamment au Reiki.
Oui, c'est admis.
Je pensais notamment au Reiki, qui est une discipline dont les infirmières, je crois, aux États-Unis ont leur premier degré de Reiki et qui commencent à venir en France petit à petit.
Alors, il y a certaines infirmières formées au Reiki dans les
c'est
services hospitaliers.
C'est quoi exactement hospitaliers. C'est quoi le Reiki?
Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est d'une technique aussi inspirée de pratiques orientales qui ont été, un petit peu occidentalisées et qui vont permettre, là aussi, d'apporter aux patients un certain bien-être en essayant, encore une fois, de rétablir l'équilibre entre le psychisme et puis le physique. Donc, il y a des infirmières. Après, c'est quelque chose de très particulier qui est utilisé, je crois, dans certains services, mais qui reste confidentiel, puisque les formations aujourd'hui en France se développent. Mais je ne crois pas aujourd'hui à un institut de formation ouvert pour les professionnels de santé. C'est-à-dire que ce sont des professionnels de santé qui s'y intéressent et qui choisissent de faire ces formations en dehors des établissements pour l'instant. Mais ça existe et pas qu'au CHU de Poitiers. Puis après, il y a d'autres techniques, je pense aussi en pédiatrie, qui sont proches de l'acupuncture. C'est
les massages
et l'acupression, c'est-à-dire les points d'acupuncture avec les doigts, avec les mains, sur les mêmes points d'acupuncture. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais ça se pratique beaucoup. Certaines puéricultrices le pratiquent et sont formées.
Oui, est-ce qu'entre les fleurs de Bac et l'aromathérapie, y a-t-il des différences, des ressemblances? question ouverte.
Alors, il y a les deux, des différences et des ressemblances. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des fleurs de Bac. Donc là, je vais avoir du mal à vous répondre pour les fleurs de Bac. C'est basé aussi sur les propriétés des plantes, mais avec des conceptions qui sont différentes.
Pour répondre à la question qui était posée, notamment dans le service d'oncologie pédiatrique, il y a une intervenante qui vient pour faire du reiki, du shiatsu aux patients et à leur famille.
Merci pour cette précision. Qui décide de la technique qui peut être utilisée ? C'est le médecin, c'est le professeur, c'est le patient ? Comment ça marche ?
Bah, je dirais que c'est proposé, jamais imposé, et c'est forcément avec l'accord du patient. Mais en tout cas, pour l'aromathérapie, c'est toujours, toujours avec l'accord des médecins. C'est une réflexion d'équipe, en fait, hein, comme l'hypnose. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être que pour ce patient, on pourrait proposer telle ou telle technique. On réfléchit ensemble à ce qui semblerait le plus adapté pour cette personne-là. Ce qui convient pour l'un peut être complètement inadapté pour l'autre et on va lui proposer différentes techniques, d'où l'intérêt d'avoir différents professionnels formés à différentes techniques. Et au final, c'est le patient qui va choisir ou pas d'adhérer à cette technique. Mais c'est plutôt des réflexions d'équipe et toujours en accord, voilà, forcément.
D'accord.
Alors moi, j'aurais deux questions par rapport à l'hypnose. Vous pensez quoi de la réduction virtuelle de l'estomac ? Je suis diététicien, donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et au niveau micronutrition, des matériels de type oligoscan qui peuvent donner des informations, mais vraiment globales, est-ce que vous pensez que niveau fiabilité, c'est bon ou pas ?
Alors, vous déchiffrerez aussi un petit peu tout ce qu'il a dit, parce qu'on ne comprend pas
oui,
tout.
Oui, d'accord, hein. Oui. Non, mais ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont un très gros appétit, hein, et donc qui mangent en grosse quantité. Et donc, à travers l'hypnose, on peut permettre à une personne d'avoir un peu... Parce qu'on passe dans l'imaginaire, hein, quand on fait de l'hypnose. Et on considère donc en hypnose qu'on a beaucoup plus de ressources qu'on ne pense que l'on a. Et on peut laisser penser à une personne que c'est comme si on installait autour de son estomac un anneau, et comme si elle avait un estomac beaucoup plus petit, et du coup, elle va moins manger. Par contre, moi, je n'ai jamais pratiqué ça envers une personne qui mangeait beaucoup, quoi. Parce que souvent, même si en hypnose, on ne va pas s'occuper de la cause, on va s'occuper du symptôme, quelque part, il y a quand même, comment dire, il y a toujours une autre cause. Et du coup, moi, je n'ai jamais pratiqué pour réduire comme ça, pour faire un anneau au niveau de l'estomac, quoi. Mais bon, après, c'est faisable. Je sais qu'il y en a qui le font, hein. Voilà. Et alors, pour la micronutrition
Alors, pour la micronutrition, oui, pour l'oligoscan. Effectivement, c'est un appareil qui est très intéressant. Je travaille avec ma femme dans le même cabinet. Elle est également médecin. Elle est dans la salle. Je vais peut-être lui demander, parce qu'elle fait beaucoup de recherches sur l'oligoscan. Mais oui, c'est fiable. Et on apprend plein de choses sur l'équilibre d'oligo-éléments du patient. Mais je vais peut-être lui demander de dire un mot, parce qu'elle vous en parlera mieux que moi.
Où est l'épouse de Monsieur Boucher ?
Elle est là.
Elle est là.
Ah, elle est juste dedans. D'accord. Ah ben, je vous laisse vous organiser. C'est bien.
Bonjour, messieurs, dames. Oui, en effet, donc, nous avons un oligoscan à notre cabinet. Et c'est de la spectrophotométrie. Je pense que ça a été étudié quand même depuis de nombreuses années et que ça paraît très, très valable comme technique. Et en effet, grâce à ça, ça me permet, moi, de détecter des carences en beaucoup de micronutriments et puis aussi de détecter des inflammations. Et notamment, j'ai pu détecter plusieurs maladies auto-immunes, voilà, depuis que je le fais. Et en effet, enfin, des thyroïdites, par exemple, ou des maladies comme ça. Et c'est très intéressant ensuite de pouvoir... agir dessus avec la micronutrition. Et puis aussi, avec un oligoscan, on peut aussi retrouver certains métaux lourds Et ce qui peut être aussi assez intéressant, puisque ces métaux lourds sont la cause d'un certain nombre de maladies, notamment de maladies auto-immunes aussi, et autres. Et, voilà, et ensuite, de pouvoir essayer de les éliminer du mieux qu'on peut. En tout cas, de les éliminer un peu de l'environnement, si on peut, comme l'aluminium, par exemple. Et puis, en même temps, par des traitements appropriés, de pouvoir les diminuer dans l'organisme. Voilà.
En deux mots, juste pour notre culture, c'est quoi un oligoscan ?
Eh bien, c'est un scanner, voilà, c'est un petit appareil qui envoie des longueurs d'onde par de lumière. Et au niveau de la main, ça se fait. Ça dépend éventuellement, enfin, il faut rentrer le poids, bien sûr, l'âge, etc. C'est un logiciel qui permet de faire ça. Et puis, le groupe sanguin. Voilà, et puis c'est réalisable très, très facilement, très rapidement, et on obtient donc voilà, des éléments que moi je trouve très intéressants.
Merci.
Je ne sais pas qui avait posé
la question. C'était monsieur. Voilà. Merci.
Oui, merci. Ma question concerne l'aromathérapie. Vos recommandations pour l'utilisation des huiles essentielles est évidemment très utile. Mais quand on se promène sur certains marchés, en Provence notamment, bon, on voit ici ou là des étals d'aromathérapeutes, je ne sais trop, mais y a-t-il une réglementation ou un observatoire de la vente un peu sauvage de ces produits et, voilà, qui viennent en concurrence quelque part aux produits qui sont biochimiquement certifiés?
Alors, il y a une réglementation de plus en plus stricte, hein, mais c'est aussi pour ça que je parlais des labels de qualité. Tout dépend ce que vous en faire. Si on parle d'utilisation à visée thérapeutique, il faut vraiment rester dans des produits certifiés. Après, on peut tout simplement avoir envie d'avoir chez soi un diffuseur pour que ça sente bon. C'est pas du tout la même utilisation. Mais il y a de plus en plus de contrôle. Et je crois que c'est important aussi, quand on ne connaît pas bien, de s'adresser aux pharmaciens, aux personnes qui connaissent. Parce que comme tout produit, moi j'ai envie de dire que tout est poison. Hein. Il n'y a pas plus de risque avec l'aromathérapie qu'avec certains médicaments. Mais celles qui sont en vente libre aujourd'hui, puis cette tendance à penser que tout ce qui est naturel ne serait pas dangereux, peut devenir dangereuse. D'où une réglementation assez stricte. Et puis de savoir demander conseil, de toute façon, toujours. Hein. C'est l'automédication qui peut être dangereuse dans ce domaine-là, mais comme avec tous les médicaments. Quand on voit les armoires à pharmacie, moi je travaille à la HAD, donc l'hospitalisation à domicile, quand on voit les armoires à pharmacie chez les patients, je trouve ça beaucoup plus dangereux que les deux flacons d'huile essentielle qui sont sur la table de nuit. Donc c'est un grand débat, mais c'est tout l'intérêt aussi d'être informé et que les patients soient, enfin, que le public soit acteur, hein, et d'avoir accès aux informations qui sont fiables. Parce que je vous dis, quand on voit les armoires à pharmacie, c'est aussi très dangereux.
Donc, demander conseil, ne pas hésiter à demander conseil si on doit choisir une.
Ne pas hésiter à demander conseil. Beaucoup de pharmaciens sont très, très au point sur l'utilisation des huiles essentielles. Au départ, c'était leur métier.
Et vous avez dit une phrase très juste, tout ce qui est naturel n'est pas forcément...
Ben, oui, parce qu'on confond naturel et sans danger, alors que non, ce n'est pas du tout la réalité. Mais encore une fois, ça n'est pas plus dangereux que certains médicaments allopathiques. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de s'automédiquer avec des médicaments... à visée cardiologique, par exemple. On va voir un spécialiste, un médecin cardiologue. Mais ce n'est pas plus dangereux, mais ça peut l'être autant. Et c'est peut-être moins dangereux sur les marchés de Provence que dans un magasin que je ne citerai peut-être pas, mais où tout le monde va, parce qu'on pense que c'est naturel. Et pas du tout. Ce sont des huiles de synthèse. Voilà. Et aussi, alors, là aussi, hein, une huile essentielle et un diffuseur, une huile essentielle qu'on fait brûler dans un diffuseur, à part du dioxyde de carbone, c'est tout ce qu'on respire. Donc ça n'a aucun sens. Voilà, c'est une petite information aussi. Bon, on ne fait pas brûler des huiles essentielles, surtout pas.
On a bien repéré le magasin, merci en tout cas.
Oui, j'ai pas dit non, hein, quand même.
Oui, j'ai une question aussi pour Catherine Boisseau. Je voulais savoir si vous avez vu autour de vous les médecins évoluer par rapport aux pratiques et à l'aromathérapie, parce que bon, je m'intéresse beaucoup aux plantes et puis aux tisanes. Et c'est vrai que quand je le dis parfois à mon médecin, il rigole, enfin, il dit « Ah, c'est parce que vous buvez de l'eau chaude, mais... » Alors, il n'y a rien dans les plantes.
Mais en fait, c'est normal. Il faut s'attendre à ça. Il y a d'autres techniques. Hein. On utilise dans certains services aujourd'hui des pansements à base de miel. C'est vrai que la première fois que j'ai parlé de ça dans l'hôpital, on m'a dit « Puis pourquoi pas de la bouse de vache ?» J'ai dit, bah, pourquoi pas. Voilà, moi, je suis ouverte à toute proposition, à condition qu'on ne mette pas en danger les patients. Et c'est un patient qui nous avait expliqué que dans le service où il était hospitalisé, il utilisait ses pansements. Et je crois que c'est important, après, de chercher à comprendre, de savoir si le laboratoire est fiable ou pas. Là aussi, l'apithérapie se développe énormément. Donc oui, il faut s'attendre à souvent ce qu'on entend, en tout cas au début, hein, ça a été un long chemin, c'est si ça peut vous faire plaisir. Bah, si ça fait plaisir aux patients et si on ne prend pas de risque, voilà, c'est pas grave. Il faut être tenace. Mais en même temps, il faut se former pour avoir des arguments. Parce que je comprends tout à fait que les médecins soient inquiets de savoir s'il y a des interactions avec ce qu'ils prescrivent, c'est normal. Donc on n'est pas si on est dans un combat à tout prix, ça ne sert à rien. Hein, c'est au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'on a commencé par le traitement des odeurs, parce que c'est quelque chose qui gêne énormément et les patients, et les familles, et les soignants. Mais là aussi, pas n'importe comment, on a testé des tas de mélanges différents, parce qu'il ne faut pas non plus gêner les autres personnes. Et il faut le faire en sécurité, donc je crois que on ne peut pas faire les mêmes choses en milieu hospitalier qu'à domicile. Il y a aussi plusieurs patients, il y a aussi des soignants qui attendent un bébé. Donc il y a des huiles essentielles qu'on ne va pas utiliser. D'où l'important de se former et d'exclure de toute façon celles qui peuvent être dangereuses. On commence par ça. Mais pour savoir lesquelles c'est, il faut les connaître. Donc il faut pouvoir se former. Après, je crois que... Enfin, moi, vous avez mes cheveux blancs, hein, donc... Il y a de plus en plus d'ouverture aussi parce que les patients le demandent. Il y a une étude, je crois que c'est de 2016, hein, qui a été faite par un institut strasbourgeois qui montre que de toute façon, 98% des patients atteints de maladies chroniques utilisent d'autres traitements. Et parfois à des prix incroyables. Hein, on est capable de tout quand on est malade pour aller mieux. Donc autant connaître, en parler. Et puis là encore une fois, c'est pas en voulant à tout prix convaincre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Je vous propose les dernières questions.
Au niveau de l'homéopathie, tous les produits qu'on vient de parler, il y a des molécules, sauf dans l'homéopathie. Est-ce vrai seulement ?
Je n'ai pas compris la question.
Oui, au niveau de l'homéopathie,
oui.
C'est le seul produit dilué où il n'y a pas de molécules.
Alors,
est-ce vrai ou...
C'est un grand débat. Il est admis que si vous avez des souvenirs de chimie, le nombre d'Avogadro, ça devrait vous dire quelque chose. Et il est admis qu'à partir de la 9CH, la 9e centésimale hahnemannienne, comme dilution, il n'y a plus de molécules. Mais il semble qu'il y ait une transmission qui soit électromagnétique dans le liquide dilué. Et ce serait, je mets tout ça au conditionnel, ce serait l'explication de l'efficacité de l'homéopathie. Il y a eu des travaux il y a plusieurs années par un professeur d'université à l'université de Genève, qui faisait de la recherche sur l'homéopathie, le professeur Roy, il est décédé depuis peu. Il avait montré par un procédé, je crois que ça s'appelle la thermoluminescence, mais j'en suis pas certain, que les dilutions, il avait mis des dilutions d'arnica. Vous connaissez arnica, cette plante. Arnica, c'est vraiment le remède homéopathique qui est le plus connu. Donc dans différentes dilutions, en 4CH, en 5CH, en 7, en 9, en 12, en 15, en 30. Donc à partir de la 9e, théoriquement, il n'y a plus rien en tant que molécule. Mais en envoyant un faisceau lumineux sur ces tubes, dans lesquels il y avait ces liquides d'arnica dilués, eh bien, il obtenait en chauffant les tubes une diffraction de la lumière et une couleur, c'est pour ça que ça s'appelait thermoluminescence, une couleur différente de la lumière après le passage de cette lumière dans le tube. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. la lumière qui passait à travers le tube 5CH ressortait avec une couleur bleue, par exemple. Celle qui passait à travers le tube de 9CH, une couleur verte. Celle qui passait à travers le tube en 15CH, une couleur violette. Voilà, bon, je ne vous dis pas les couleurs exactes, hein, je ne me souviens plus. Mais c'est quand même quelque chose qui a donc été prouvé vraiment physiquement. Voilà. Il semble que ce soit du domaine du magnétisme, d'une transmission de l'information. Alors là, c'est hyper intéressant. Hein. Là, c'est la recherche en homéopathie. C'est très intéressant, mais je pense qu'on va comprendre de plus en plus le pourquoi de cette efficacité, parce que c'est efficace. Une dilution 15CH est très efficace. Autant, enfin différemment, mais autant qu'une dilution 4 ou 5CH.
Ok.
Oui, bonsoir. En aromathérapie, je voulais savoir pour les enfants de moins de 3 ans, vous parliez d'interdiction. Est-ce qu'on est sur une interdiction formelle? Est-ce qu'il y a des voies d'administration possibles si c'est prescrit par un aromathérapeute? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'on voit des fois des flacons pour le sommeil, par exemple, pour des nourrissons avec des mélanges? Donc, je voulais savoir ce qui était possible de faire.
Voilà. Alors moi, je vais vous rappeler que je ne suis pas médecin. Hein, donc, dans mon champ de compétences, jamais je ne proposerai d'aromathérapie aux enfants parce que ce n'est pas mon domaine de compétences. Par contre, il y a des prescriptions faites par des médecins aromathérapeutes avec des préparations spécifiques. Mais cette précaution, je pense qu'elle est importante parce qu'on sait bien aussi que quand on dit aux gens qu'il faut mettre une goutte, ils vont en mettre 5. Et tout est une question de dose en aromathérapie et je crois que là, il faut vraiment consulter un médecin spécialiste. Hein, mais oui, ça existe, hein, mais en tout cas, nous, on ne le pratique pas parce que ce n'est pas dans notre domaine de compétence. Il faut connaître ses limites. Hein. Donc là, il faut s'adresser à un médecin aromathérapeute formé. Il y a d'ailleurs l'annuaire des médecins phyto-aromathérapeutes national qui permet de trouver un professionnel qui soit en capacité de répondre à vos questions. Il existe des mélanges tout prêts, donc il y a beaucoup moins de risques que d'acheter des huiles et de les mélanger soi-même. Pour les bébés, hein, il y a un laboratoire qui en fabrique. Mais là encore, je crois qu'il faut, ça dépend de l'enfant. Il y a pas, l'aromathérapie, c'est vraiment complètement personnalisé. Donc peut-être que ça fonctionne sur un enfant et pas sur un autre. Donc je crois qu'il faut encore s'adresser aux gens compétents.
Merci. Dernière question.
Oui, pardon, merci. Comme la première intervenante, moi je me félicite de cette table ronde. Et ma question, c'est au fond, j'ai cru comprendre que vous étiez formé après la formation initiale, si j'ose dire. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les formations initiales, par exemple, de médecins à l'université de médecine à Poitiers? Est-ce qu'il y a des introductions de ces thèmes?
Alors,
c'est une très bonne question.
Oui, c'est une très bonne question, mais qui peut ouvrir là aussi un véritable débat.
Que nous n'aurons pas ce soir.
De mon temps, si je puis dire, il n'y avait aucune information sur ces médecines-là. C'était évidemment le bouche à oreille, le copain qui avait entendu dire que, etc. Et il y avait des écoles, mais qui n'étaient pas, on va dire, validées, encore que c'est là aussi c'est sujet à discussion, des écoles d'homéopathie, des écoles d'acupuncture qui n'étaient donc pas en lien avec une université. Donc il n'y avait pas de diplôme au sens actuel du terme. Actuellement, je crois qu'en sixième année de médecine, on les sensibilise quand même à ce type de médecine. Mais c'est très peu et ça ne doit pas durer longtemps. Voilà. Ce n'est qu'après les études de médecine. Moi, j'ai eu un parcours qui était au début très allopathique. Et puis, je me suis intéressé à ça après. Je crois que c'est après, de toute façon, qu'on commence à s'intéresser à ça. Et moi, ce serait bien, oui, si ça faisait partie intégrante des études de médecine.
Juste par une information, alors là, ce n'est pas visé enseignement, mais normalement, à la rentrée prochaine, pour les étudiants en médecine en deuxième année, ceux qui auront passé le concours, il doit y avoir 3 journées pour les intéresser à leur bien-être, hein, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de difficultés pour les étudiants, d'ailleurs pas seulement ceux en médecine, mais pour qu'ils restent en bonne santé. Et il y aura une intervention de nutritionniste, de sophrologue et également de personnes pour la méditation. Donc ça sera pas un enseignement, mais ça sera peut-être quelque chose pour eux aussi, qui pourront prendre contact avec ce type de pratique, en tout cas pour leur bien-être à eux.
Merci beaucoup pour la précision. Je vous propose d'applaudir nos intervenants, les remercier. Vous allez avoir la possibilité d'ici quelques secondes d'aller les voir, bien évidemment, si vous avez encore une question. Je voudrais remercier l'équipe technique. Je vous dire que vous allez pouvoir réécouter tout ce que l'on s'est dit sur le site du CHU et l'espace Mendès France. N'oubliez pas la fiche d'évaluation qui est très importante. Merci d'ailleurs à l'équipe du CHU et à l'équipe de Mendès France pour ce rendez-vous. Et je vous propose de nous retrouver le 5 avril prochain pour le deuxième pôle Info Santé de cette année 2018. Le thème est un thème qui nous intéresse tous et toutes. Nous allons parler du SAMU et des urgences. Très bonne soirée. Merci.